Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Suite et quatrième temps d'une semaine sur David Hume dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Michel Malherbe, venu vous parler de causalité. Après Jean-Pierre Clairaut et Didier Deleul, venu vous parler des passions. Éléonore Lejallet et Philippe Saltel, venu vous parler de morale, enfin si on veut. C'est le philosophe Frédéric Brahmi qui est aujourd'hui notre invité pour évoquer la redoutable question de l'identité personnelle dans l'œuvre de Hume. Je suis... Ou plutôt j'étais, car c'est le ton que je dois prendre en parlant de moi, et qui m'enhardit même à dire ce que je pense, j'étais, dis-je, un homme d'un caractère doux, maître de moi-même, d'une humeur ouverte, gaie et sociale, capable d'amitié, mais très peu susceptible de haine, et très modéré dans toutes mes passions. Le désir même de la renommée littéraire, qui a été ma passion dominante, n'a jamais aigri mon caractère, malgré les fréquents revers que j'ai éprouvés.
Ma conversation n'était désagréable ni aux jeunes gens, ni aux oisifs, ni aux hommes studieux et instruits. Et comme je trouvais un plaisir particulier dans la société des femmes honnêtes, je n'ai pas eu lieu d'être mécontent de la manière dont j'en ai été traité. En un mot, quoi qu'il n'y ait guère eu d'hommes distingués en quelque genre que ce soit qui n'ait eu à se plaindre de la calomnie, je n'ai jamais senti la teinte de sa dent envenimée. Et quoique je me sois exposé assez légèrement à la rage des factions politiques et religieuses, elles ont paru se dépouiller en ma faveur de leur férocité ordinaire. Mes amis n'ont jamais eu besoin de justifier aucune circonstance de ma conduite, ni de mon caractère.
Oh, ce n'est pas que les fanatiques n'eussent été disposés, comme on peut bien le croire, à fabriquer et à répandre des fables à mon désavantage, mais ils n'ont jamais pu en inventer une seule qui eût quelque apparence de probabilité.
Je ne puis pas dire qu'il n'y ait point de vanité à faire ainsi ma propre raison funèbre. Mais j'espère que du moins, on ne la trouvera pas hors de propos. C'est un point de fait qui va être bientôt éclairci et constaté.
Bonjour Frédéric Brahmi.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance sous la musique de Jules et Jim. Et avec cet autoportrait de Hume par lui-même, on est en plein dans le vif du sujet, si j'ose dire, et dans le paradoxe d'ailleurs qu'il y a pour un homme comme lui, qui détruit l'identité personnelle, à faire son propre portrait. Comment le contempteur du moi peut-il écrire à la première personne du singulier, Frédéric Brahmi? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe insurmontable, ça?
Si, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe assumé, même dans le texte qu'on vient d'entendre. On remarque que Hume écrit de lui par une suite de négations. Je suis, ou plutôt j'étais. Donc il s'absente de son propre discours, il parle de ses relations à autrui pour dire toujours qu'il n'a pas eu à souffrir, qu'il n'était pas si passionné, qu'on n'a pas... pu mordre sur sa tranquillité. Donc c'est un discours dans lequel il n'affirme pas la position d'un sujet libre et qui affirmerait son être par des initiatives, mais plutôt la manière dont il réagit et dont il perçoit la façon dont il est reçu par les autres. Et ça, c'est tout
intéressant
à fait
que vous disiez manière. C'est-à-dire, en fait, il est manière. Cet homme, il se définit non pas comme un sujet, mais comme un... Alors, c'est intéressant parce qu'on peut traduire justement dans l'éthique de Spinoza est traduite de deux façons. Certains traduisent modus par mode et d'autres, comme Bernard Potrat, par manière, justement, définissant les individus comme autant de manières. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette façon de définir l'individu? Est-ce que Hume, finalement, relève de cette entreprise?
Absolument, sauf que chez Hume, comme c'est bien connu... Ces manières n'expriment pas une substance. Elles sont la seule réalité qui nous est donnée à connaître. Et donc Hume, dans ce texte, et dans tous les textes qu'il écrit sur lui-même, car il y en a d'autres, ne saisit que la surface de son être et suggère par là qu'il n'y a rien à chercher derrière.
Qu'il n'y a rien à chercher derrière. Il est donc la sommation de tous les événements, de toutes les péripéties et de toutes les humeurs aussi qui ont été les siennes. Et le problème se repose ici, Frédéric Brahami. Le ton badin qu'il emploie, parce que c'est quand même un homme qui va mourir, hein, qui parle de lui, là. Alors, on ne s'en aperçoit pas parce que le ton est léger, mais il le dit, hein, c'est une oraison funèbre, hein, qu'on vient d'entendre. Et cette oraison funèbre qu'il constate avec la sérénité d'un stoïcien, on dirait Caton, ce ton badin relève d'un caractère. Il était d'un caractère badin, d'un naturel, léger, frivole, il aimait le tric-trac, c'est ce que ses amis disent de lui. Comment peut-on n'avoir aucune identité, n'être que la somme de ses affections, de ses perceptions, des épisodes de la vie, tout en ayant un caractère?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un caractère si on veut donner une signification philosophique qui soit plus profonde qu'une simple signification psychologique. Vous parlez de son côté badin dans ce texte. Moi, je ne crois pas. J'entends plutôt sa pudeur, en fait, plutôt qu'un caractère badin. Et cette pudeur, à mon avis, elle cache...
Badinerie ou pudeur, c'est quand même un caractère. Si vous parlez d'un ami, vous dites il est pudique ou il est badin, vous le définissez.
Oui, mais je crois que c'est plutôt le résultat d'une conquête sur une épreuve tragique et mélancolique qu'il a traversée et qu'il témoigne dans d'autres textes autobiographiques, dans une lettre qu'il a écrite quand il avait 23 ans, 1734, à un docteur, et dans laquelle il fait part de la mélancolie absolument atroce qu'il traverse parce qu'il n'arrive pas à réaliser l'œuvre qu'il porte en lui et qu'il finira par réaliser. Et puis cette expérience personnelle, cette traversée mélancolique qu'il a connue dans son adolescence, il lui donne une forme philosophique dans la conclusion du livre 1 du traité de la nature humaine, dans laquelle il dit « Tout ce que j'ai réussi à acquérir jusqu'à présent, tout le résultat de mon enquête, au fond, aboutit à un scepticisme outré qui est tel que je suis comme un voyageur qui va se noyer. Je suis comme un naufragé. » Et il pose la question « Qui suis-je ?» Lui qui écrit ce texte à la fin, « My own life, qui suis-je ?» Il pose la question « Qui suis-je ?» et il dit au fond « Je ne suis rien. Je suis... sans aucune vérité, je suis isolé des hommes, je suis perdu, je vais me noyer. » Et puis fort heureusement, la nature me sort de cette mélancolie, de ce délire philosophique, et me pousse à aller jouer au tric-trac. Et donc je crois que ce n'est pas en termes de caractère qu'il faut penser cette pudeur, cette gentillesse, cette douceur de Hume, mais plutôt en termes d'une conquête, quelque chose qui tient lieu d'une identité sociale pacifiée, une fois qu'il a traversé le désespoir, en quelque sorte pyrrhonien, ou le désespoir sceptique, d'une absence d'identité.
La nature me guérit de cette mélancolie philosophique et de ce délire, soit par relâchement de la tendance de l'esprit, soit par quelques divertissements et par une vive impression sensible qui efface toutes ces chimères. Je dîne, je joue au tric-trac, je parle et me réjouis avec mes amis. Et si, après 3 ou 4 heures d'amusement, je voulais revenir à mes spéculations, celles-ci me paraîtraient si froides, si forcées et si ridicules que je ne pourrais trouver le cœur d'y pénétrer tant soit peu.
Je suis faite pour plaire et n'y peut rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. J'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme...
Frédéric Brahami est notre invité aujourd'hui, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et nous sommes également en compagnie de Jean-Louis Jacopin, qui nous accompagne pour les lectures de ce texte en studio, donc dans le studio 167. Et c'est de Hume que nous parlons toute la semaine dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et aujourd'hui, de la question du moi que Hume met en question, justement, et du paradoxe qui consiste à raconter sa vie tout en déconstruisant la possibilité même d'une identité personnelle. Frédéric Brahami, vous avez dit tout à l'heure, en commentant l'autoportrait de Hume par lui-même, vous avez dit qu'il se définissait négativement. Est-ce que cette façon négative qu'il a de se définir va dans le sens d'une absence de substance, ce qui serait interprété Hume comme il faudrait le faire, enfin, conformément à ce qu'il dit, ou est-ce que c'est l'aveu peut-être d'une impuissance, j'allais dire presque grammaticale, à saisir ce qui constitue l'identité dans la mesure où elle est constamment mobile, alors que les mots, eux, ont cette rigidité, cette dureté, cette fixité qui les rend imperméables à cette mobilité de l'individu, de la manière humaine.
Je ne crois pas du tout que Hume considère que le langage soit, dans sa rigidité, etc., l'obstacle à la saisie d'un moi authentique qui perdurerait identique à lui-même à travers les variations de l'existence.
C'est pas qu'il serait identique à lui-même, c'est qu'il serait tellement mobile que les mots ne pourraient pas le dire.
Oui, mais je pense que Hume est plus radical que ça et qu'il considère véritablement qu'il n'y a pas de mobilité même de l'identité. C'est une pure construction fictive. Que l'esprit ou la nature humaine a besoin de faire pour des raisons particulières, mais qui ne suppose aucun donné ontologique ni immobile ni mobile pour être pensé.
De sorte que la question ne serait pas de savoir qui suis-je, mais qui deviens-je ? On pourrait dire ça ou pas ?
Oui. Qui deviens-je, puisque en fait cette fiction, elle est évidemment construite par la mémoire, par mon rapport à autrui, par mon histoire, et donc elle n'est pas je serai au bout du compte ce que les aléas de mon existence m'auront fait. Mais il n'y a pas de deviens ce que tu es. Hein. Il ne s'agit pas de construire consciemment, à partir d'un projet ou d'un idéal, une identité personnelle. Ce sont les aléas de l'existence qui construisent une fiction substantielle de soi.
Mais alors cette fiction substantielle de soi, qui est donc l'effet on a bien compris, hein, de rencontres, des péripéties de la vie, finalement, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire, à la fin de la vie, hein, au moment de mourir, après tout, le texte qu'on a entendu au début est le texte d'un homme qui s'apprête à mourir, pudiquement ou sereinement, c'est selon, qu'est-ce qui nous empêche de dire, à la fin de la vie, ben voilà, je suis tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai vécu, je suis tout ce que j'ai vécu. Si l'identité ou la fiction de l'identité repose sur ces rencontres, qu'est-ce qui nous empêche de dire à la fin de la vie, bah, la somme de ce que j'ai vécu, bah, voilà ce que je suis. Mais je suis la somme de mes actes.
Il n'y a aucun problème, à condition de ne pas oublier dans ce « je suis » final qu'on a bien conscience de la contingence radicale et indépassable de ce que je suis. Hein, puisque... si je transforme le « je suis » en destin, je ne suis pas fidèle à l'orientation humienne de la théorie du « moi ».
Alors, Frédéric Brahami, quand même, restons un instant sur cette question. Je vous ai parlé tout à l'heure du langage, de la fixité des mots. Hume dit ceci, hein, « Toutes les questions délicates et subtiles sur l'identité personnelle ne peuvent jamais être tranchées et elles doivent être considérées comme des difficultés grammaticales plutôt que philosophiques. » Est-ce qu'en disant ça, Hume ne fraye pas la voie à ce que Nietzsche, par exemple, dira plus tard, quand Nietzsche dira « Nous croyons en Dieu tant que nous croyons en la grammaire », par exemple. Ça, ce sont des fictions verbales. En somme, c'est la structure de la phrase qui crée l'illusion d'un sujet autonome.
Peut-être qu'il y a ça chez Nietzsche, chez Hume.
Vous laisse le lapsus, c'est le vôtre.
Mais je pense peut-être qu'il ouvre cette voie, en effet. Mais il ne la fait pas travailler dans les textes. Hein. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas l'orientation grammaticale qui est celle de la philosophie contemporaine. Il est vraiment pris dans une problématique qui est celle du XVIIIe siècle et qui est celle de qu'est-ce qui me permet d'affirmer qu'il y a un fil qui fait tenir ensemble les diverses perceptions et les divers phénomènes dont je fais l'expérience. Donc oui, des difficultés grammaticales, mais moi l'expérience que j'ai de son œuvre sur l'identité personnelle aussi sur le reste, c'est que cette intuition qu'il a, il ne la fait pas travailler beaucoup.
C'est génial, vous dites l'expérience que j'ai de son œuvre, c'est-à-dire vous parlez en Humien.
Ah bah oui.
Vous parlez de Hume en Humien.
Oui.
Vous diriez que vous êtes Humien?
Oui.
Comme une qualité propre qui vous appartient, qui définirait votre identité?
Bah oui, c'est pas ça ne me gêne pas du tout de dire quelque chose comme ça.
Mais si on pousse la logique jusqu'à son terme, est-ce que quand je vous appelle par votre prénom, par votre nom, je commets un abus de langage, ou est-ce qu'en somme je ne fais que m'en tenir à une détermination sociale, collective, de votre identité, sous laquelle c'est illusoirement qu'on chercherait un moi profond, comme on dit, ou une espèce de trésor enfoui?
Oui, je crois que c'est comme ça. Hein. Je ne suis pas engagé dans mon nom. Pour Hume. Mon nom, c'est simplement mes papiers d'identité. C'est ce qui me permet que vous m'appeliez au téléphone ou qu'on prenne un rendez-vous. Voilà.
Donc il n'y a pour Hume que d'identité sociale, finalement. Mais on peut parler à ce moment-là d'identité.
Moi, je pense, oui. Il y a une identité mémorielle aussi. Hein, mais personnellement, je pense que l'identité sociale, à condition de ne pas considérer la société elle-même comme une réalité existant en soi, l'identité sociale est, c'est la société qui est véritablement, c'est les rapports sociaux qui sont véritablement constitutifs de l'identité.
Alors vous avez parlé d'identité mémorielle, Frédéric Brami, on va rester justement sur cette question de l'identité mémorielle à partir de la fin de la section 1 du traité de la nature humaine, un texte dans lequel Hume précisément revient sur cette question de la mémoire et interroge finalement, se pose la question de savoir si la mémoire permet, comme on le dit bien souvent d'ailleurs, de constituer une identité, ce qui était la question que je vous posais en filigrane quand je vous disais, est-ce qu'à la fin de la vie finalement, on n'est pas la somme de ce qu'on a vécu. Voici ce texte que nous lit tout de suite Jean-Louis Jacobin.
Comme la mémoire seule nous fait connaître la persistance et l'étendue de cette succession de perceptions, elle doit être considérée pour cette raison principalement comme la source de l'identité personnelle. Si nous n'avions pas de mémoire, nous n'aurions jamais aucune notion de causalité, ni par conséquent de cette chaîne de causes et d'effets qui constitue notre moi, notre personne. Mais une fois que nous avons acquis cette notion de causalité par la mémoire, nous pouvons étendre la même chaîne de causes et, par conséquent, l'idée de notre personne au-delà de notre mémoire. Et nous pouvons englober les moments, les circonstances et les actions que nous avons complètement oubliées, mais dont nous supposons en général l'existence. Qui peut me dire, par exemple, quelles furent ses pensées et ses actions le 1er janvier 1715, le 11 mars 1719 et le 3 août 1733? Ou, affirmera-t-on, parce qu'on a entièrement oublié les incidents de ces jours, que le moi présent n'est pas la même personne que le moi de cette époque et, de cette façon, mettra-t-on sans dessus-dessous les notions les mieux établies d'identité personnelle? De ce point de vue, donc, la mémoire ne produit pas tant qu'elle ne découvre l'identité personnelle, en nous montrant la relation de cause à effet entre nos différentes perceptions. Il incombera à ceux qui affirment que la mémoire produit entièrement notre identité personnelle de donner la raison pour laquelle nous pouvons ainsi étendre notre identité personnelle au-delà de notre mémoire.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens.
Frédéric Brahmi est notre invité aujourd'hui, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, pour parler de David Hume. Frédéric Brahmi, qui est notamment l'auteur d'un papier, d'une contribution aux excellentes lectures de Hume, qu'on trouve chez Ellipse, sous la direction de Jean-Pierre Clairaut et Philippe Saltel.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis.
Alors Frédéric Brahmi, allons-y. C'est la question la plus difficile peut-être de Hume, vous me le disiez hors micro. Dans quelle mesure est-ce que la mémoire est garante de l'identité personnelle ou au contraire nous donne l'illusion qu'on en a une?
Il faudrait peut-être faire juste un petit retour en arrière dans l'histoire de la philosophie pour montrer où se situe le geste de Hume sur la question de la mémoire. Il y avait un premier geste révolutionnaire qui avait été fait par Descartes et qui séparait la raison de la conscience, en quelque sorte, pour assimiler la conscience à la pensée. Mais Descartes gardait l'idée que la pensée est l'attribut d'une substance. Deuxième geste révolutionnaire, celui de Locke, qui sépare l'identité personnelle de la substance, en disant que c'est en effet la mémoire qui fait l'identité personnelle. Évidemment, ça pose un problème, et ça pose un problème à Hume, qui est que l'identité personnelle, c'est un sentiment, alors fictif pour Hume, c'est l'illusion, si vous voulez, à laquelle on croit, néanmoins, que nous restons identiques à nous-mêmes à travers le temps. Donc c'est une illusion continuiste. Or, la mémoire est pleine de trous. C'est ce que dit le texte. Qui se souvient de ce qu'il faisait il y a quelques années, ce jour précis? Donc, la mémoire ne peut pas, à elle seule, expliquer le sentiment que nous avons de notre identité personnelle, puisque si elle était seule à construire cette identité personnelle, notre identité personnelle serait elle-même pleine de trous, pleine de zones obscures.
Pardon, Frédéric Brahmi, juste un point quand même. La phrase de l'amnésique... La deuxième phrase de l'amnésique, juste après avoir dit « je ne me souviens de rien », c'est dire « mais qui je suis ?»
Mais alors ?
Est-ce que ça n'est pas justement la preuve que, si j'ose dire, par l'absurde, que la mémoire est garante, en tout cas du sentiment d'avoir une identité ?
Oui, bien sûr. Mais ce sentiment pour Hume est illusoire.
Donc, il y a donc des sentiments illusoires pour Hume.
Ah bah oui, la certitude que j'ai que les corps existent, elle ne peut pas être prouvée. C'est ce que les commentateurs anglais appellent des croyances naturelles. L'expression n'est pas des Hume. L'expression n'est pas dans Hume. Mais nous avons tous des croyances naturelles. La causalité dont vous avez parlé, la causalité, nous croyons naturellement, nous avons un sentiment que le feu cause la brûlure. Et pourtant, c'est une détermination intérieure et nous ignorons qu'elle est purement subjective. Donc bien sûr qu'il y a des sentiments illusoires, ce sont des croyances qui peuvent être plus ou moins naturelles, plus ou moins critiquables, qui résistent plus ou moins à l'analyse. Voilà. Le fait que nous pensons que notre identité personnelle est le fruit de notre mémoire, c'est quelque chose que Hume critique en montrant que la mémoire ne produit pas l'identité personnelle, elle ne fait que la découvrir. L'identité personnelle vient du fait, en fait, comme il le dit dans ce texte, que l'esprit se perçoit lui-même comme étant la cause de ses idées. Et ça aussi, c'est une illusion, mais qui permet de mieux comprendre la fiction de l'identité personnelle.
L'esprit, dit-il, est une sorte de théâtre où des perceptions diverses font successivement leur entrée, passent, repassent, s'esquivent et se mêlent en une variété infinie de positions et de situations. Il n'y a pas en lui à proprement parler de simplicité à un moment donné, ni d'identité à différents moments, quelque tendance naturelle que nous puissions avoir à imaginer cette simplicité et cette identité. La comparaison du théâtre ne doit pas nous égarer, ce ne sont que les perceptions successives qui constituent l'esprit, et nous n'avons pas la plus lointaine idée du lieu où ces scènes sont représentées, ni des matériaux dont il est composé.
On se réveille dans différents aéroports. Seattle, San Francisco, Los Angeles. On se réveille à Chicago, à Dallas, à Baltimore. On change de fuseau horaire, on perd une heure, on gagne une heure.
L'enregistrement pour ce vol ne commencera pas avant 2 heures, monsieur.
C'est votre vie, et elle s'achève minute après minute. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente ?
Frédéric Brahami, ça c'est un extrait de Fight Club, l'excellent film de David Fincher, adapté du roman de Chuck Palahniuk avec Edward Norton et Brad Pitt, qui commence par, pour mémoire, un individu qui, je crois qu'il travaille dans une compagnie d'assurance, dont le métier consiste à voyager, à aller de chambre d'hôtel à chambre d'hôtel, avec des demi-portions toujours, des amitiés de convenance, enfin une vie de surface, qui devient une sorte de consommateur fou pour essayer de combler la vacuité de son existence, et qui envisage l'hypothèse qu'en se réveillant, différents endroits, différents lieux, différentes époques, il soit lui-même constamment, sans cesse, différent de lui-même. Hypothèse typiquement humienne pour le coup. On est en plein chez Hume, là. C'est-à-dire mon identité, je mets le mot entre guillemets ici, cette fluence que j'appelle indûment mon identité, elle est composée de ces rencontres.
Oui, il n'y a pas d'identité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est toujours une reconstruction a posteriori. C'est toujours un discours qu'on se raconte sur soi. Et du coup, ça a une puissance libératoire énorme, en effet. Je peux, à la limite, décider d'être un autre. Je ne suis pas l'expression ou la manifestation d'une identité qui serait tout à fait en arrière de ma tête, vous voyez, ou au-dessous, ou au fond de moi, et dont mon existence ne serait que l'actualisation.
C'est génial, ça veut dire que n'ayant pas d'identité personnelle, je coïncide pleinement avec moi-même.
Oui, je coïncide pleinement avec moi-même, et quand je pense...
Je ne suis pas en amont de moi-même, finalement.
Je ne suis pas en amont de moi-même, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis collé à... moi-même, puisque le penseur sceptique qu'est Hume sait que tout ce que je vis est radicalement contingent. Et donc le fait de percevoir quelque chose comme contingent, ce qui m'arrive là en ce moment, c'est contingent, m'empêche d'y adhérer. Et ça, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de substance en amont ou d'identité en amont, et le fait qu'il y ait en même temps ce décalage produit par la conscience de soi, par... Le scepticisme, c'est ça, en fait. Hein, c'est la
conscience. C'est-à-dire, précisons-le, qu'est-ce que c'est le scepticisme, s'il fallait le définir comme vous le faites ?
Le scepticisme, c'est la claire conscience. Hume définit le scepticisme par l'acuité du regard, hein, acuteness. C'est la claire conscience que n'existe rien d'autre que ce dont j'ai la perception, au sens large du terme, ce dont je fais l'expérience, et que ce dont je fais l'expérience n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ce dont je fais l'expérience. Je postule toujours qu'il y a une raison, mais en fait, il n'y en a pas. C'est une histoire que je me raconte quand je crois pouvoir rendre raison d'eux.
Est-ce que c'est dire « il n'y a pas de raison » ou est-ce que c'est s'interroger sur la volonté que nous avons de trouver une raison aux choses ? Parce que si je dis « il n'y a pas de raison », Je fais un discours, j'allais dire, légiférant sur le réel. Encore dogmatique, je sors du scepticisme pour dire voilà ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas. Si je dis en revanche, en gros, plutôt que de savoir quelle est la raison des choses, je vais m'interroger sur la raison pour laquelle les humains éprouvent le besoin de situer une raison au principe des choses, est-ce que le scepticisme n'est pas davantage dans cette position-là de généalogiste, finalement ?
Absolument, oui, oui. Premier temps. Il n'y a pas de raison des choses parce que la seule réalité dont on puisse parler, c'est l'expérience. L'expérience, elle est là. C'est la factualité. Bon. Deuxième chose, je ne peux pas non plus affirmer dogmatiquement qu'il n'y a pas de raison. Et de fait, il faut que j'explique pourquoi, en effet, les hommes cherchent des raisons. Tout le traité de la nature humaine de Hume répond à cette question. Il est là pour répondre à cette question que vous posez. Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de projeter une nécessité objective dans la nature? Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de s'inventer des identités personnelles? Pourquoi est-ce que les hommes croient qu'il y a un cours nécessaire de l'histoire? C'est la question de Hume. Et la plupart des réponses qu'il donne consistent à dire qu'ils sont pris dans des contradictions, dans des souffrances et dans des misères qu'ils résolvent en inventant la nécessité, l'identité, la substance. Donc ouais. Ça, c'est un discours, le discours de Hume sur la nature humaine, si vous voulez, c'est un discours thérapeutique, c'est un discours de médecin. La manière dont les hommes ont besoin de substantialiser, de rendre les choses nécessaires, d'aller chercher des raisons aux choses, pour Hume, c'est un symptôme d'une souffrance. Et là, il serait très proche...
Mais est-ce qu'en décrivant la maladie dont cette souffrance a les symptômes donc, que vous donnez, dont la construction de l'identité personnelle, est-ce qu'en décrivant cette maladie, en révélant cette pathologie aux humains donc, qui en sont affectés, Hume apaise leur souffrance ou est-ce qu'au contraire, en leur mettant le nez devant la souffrance dont ils ont conscience puisqu'ils essayent de la dissimuler, la lecture de Hume n'a pas pour effet de la développer, de l'accroître justement? Est-ce que la thérapeutique est efficace en somme?
Ah bah oui, parce que je pense que là, c'est...
On peut répondre par l'expérience, là, pour le coup. Hein.
Ah non, là, je crois qu'on peut répondre par la philosophie. C'est-à-dire que le pari même de la philosophie, c'est que projeter un peu de lumière sur l'obscurité fait nécessairement du bien.
Ou on peut considérer que l'illusion qui réconforte est préférable à la vérité qui inquiète ou qui dérange.
Sauf que la vérité qui inquiète, pensez à la psychanalyse, la vérité qui fait mal, elle finit par... améliorer, par guérir, alors que l'illusion qui rassure, elle finit par engendrer des monstres. Donc là, il y a un pari qui est à la fois un pari de la philosophie, un pari des Lumières, plus spécifiquement, et Hume adhère complètement à l'idéal des Lumières, qui est
tout en déconstruisant bien des éléments des Lumières.
Il est un peu parallèle à Rousseau, c'est-à-dire qu'il est à la fois dedans et en même temps complètement critique, et en effet, il déconstruit.
Il n'est pas dans cet optimisme rationnel qui était celui des Lumières.
Non, absolument pas. N'empêche qu'il garde ceci des Lumières, que, en vérité, la lumière ou la vérité ne peut pas être nocive. Elle est nécessairement libératoire.
Donc
déconstruire l'identité... Montrer que c'est une fiction, ce n'est pas quelque chose qui est censé produire la dépression, la mélancolie, mais au contraire, qui est censé dégager une manière plus mûre, plus sereine, comme le texte qu'on a lu au début, hein, plus sereine, plus dépassionnée, de construire sa propre vie.
Et alors, on en revient quand même à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que finalement... cette sérénité qui viendrait avec la lucidité, hein, lucidité qu'il faut prendre ici étymologiquement, hein, c'est-à-dire la lumière, lux en latin, c'est la lumière, cette manière plus sereine d'envisager l'existence au terme d'une telle déconstruction, c'est-à-dire où on détruit de toutes les idoles, peut-être la plus rassurante d'entre elles, c'est-à-dire le sentiment d'avoir une identité, est-ce que la lucidité qui accompagne cette déconstruction n'est pas justement une affaire de caractère? Est-ce qu'il n'y a pas des tempéraments qui sont capables d'endurer une telle déconstruction alors que d'autres ne peuvent pas vivre sans palliatif? Vous avez parlé de psychanalyse tout à l'heure. Freud explique, je crois que c'est dans Malaise dans la culture, dit « l'homme ne peut pas vivre sans palliatif », justement. Est-ce que cette façon de supprimer les palliatifs n'est pas profitable uniquement qu'à ceux qui sont... à ceux seulement qui sont en mesure de le supporter, tout simplement.
Moi, je crois que comme Freud, dans ce même texte, parie quand même pour la victoire de la science sur la religion et dit la science est un palliatif, la religion est un palliatif, la science, parce qu'elle projette de la lumière, est un meilleur palliatif. Hume aussi. Maintenant, bien sûr, de même qu'il est bon pour certains de ne pas aller chez le psychanalyste, de même, il est bon pour certains, sans doute, de ne pas traverser le scepticisme parce qu'ils se noieront dans la traversée du pyrrhonisme. Hume a traversé une période très, très dure dans son existence même. Sa dépression a duré entre 18 et 23 ans. C'est-à-dire que ça n'a pas duré 2 mois, ça a duré 5 ans. Il a été très malade mentalement pendant 5 ans et il a surmonté ça. Mais peut-être en effet que beaucoup n'auraient pas surmonté et auraient rejoint le confort de l'illusion de l'identité toute faite.
Que dire s'il n'y a pas d'identité, si jamais je ne suis en amont de moi-même, si à aucun moment je suis une espèce de substance inaltérable, en somme, à laquelle viendraient s'ajouter provisoirement les petits accidents de la vie, mais qui n'entameraient pas l'immatérielle et indivisible substance qui ferait mon identité, si ça ne marche pas comme ça, est-ce que je ne suis pas qu'un corps, finalement ?
Un corps ?
Un corps, uniquement. Pourquoi ?
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la philosophie de Hume, c'est qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a que de l'esprit. Hume nous dit, il ne faut pas croire que l'expérience que nous faisons, c'est l'expérience des corps. Hein, ce qu'il appelle une perception, ce n'est pas du tout une perception d'un corps. C'est ce qu'on appelle en philosophie, dans le jargon, un phénomène. Bon. C'est-à-dire une apparence sensible.
Oui.
Et Hume a toujours dit, je ne sais pas si mes idées sensibles viennent de corps. C'est une question indécidable. Et il me semble bien qu'aujourd'hui encore, c'est une question indécidée.
Il ajoute en général, ça n'a pas grande importance.
Ça n'a aucune importance, hein, oui. Puisque de toute façon, mes perceptions sensibles sont cohérentes, elles sont là, et donc elles sont aussi réelles que si c'était du corps. Alors pour Hume, tout se passe dans les passions, hein, dans les passions, dans la sympathie, dans l'orgueil, dans la mémoire, et le corps dans sa matérialité. Le corps des physiciens, si vous voulez, hein, le corps de la physique, des sciences naturelles, ça n'est pas du tout son objet. Et je crois qu'il n'a pu bâtir, ou tenter de bâtir, la science de l'homme que parce qu'il a laissé de côté le problème du corps. Parce que sinon, il se serait enfermé dans le problème des relations entre les deux substances, le corps et l'esprit. Et dès qu'on entre dans ce problème, on s'enferme dans des difficultés obscures et on ne peut pas produire du savoir.
Mais est-ce que le fait de contester l'existence d'une substance, de toute forme de substance immatérielle en amont de moi-même, ne le met pas en situation d'être, par rapport au monde finalement, immergé dans la substance, dans l'étendue, étendu parmi l'étendue, tel un corps fondu dans le monde, qui serait à la fois juge et partie finalement du monde qu'il regarde et auquel il appartient. Est-ce que finalement l'anthropologie de Hume ne débouche pas sur un corps qui serait une petite parcelle, j'allais dire, pour rester chez Spinoza, hein, une partie de l'entendement infini de Dieu, alors il ne faut pas se tromper sur le sens des mots ici, hein, mais une partie de la nature, tout simplement. Après tout, pourquoi fait-il tellement appel à la nature comme ce qui le réconforte ?
Mais la nature, pour Hume, n'est pas quelque chose de donné. Hein. L'esprit humain n'est pas quelque chose qui se trouve dans la nature. Il n'y a de nature que par la manière dont l'esprit organise les données de la sensibilité à travers l'association des idées. Autrement dit, ce qu'on appelle la nature, l'ensemble réglé des phénomènes, etc., en vérité, c'est une construction de l'esprit. C'est une construction de l'esprit. Donc, c'est la nature humaine, c'est-à-dire les principes d'association entre les idées, qui construit notre rapport à la nature. Entendez par là un ensemble réglé de phénomènes. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire, on puisse faire le parallèle avec toutes les précautions que vous avez prises, avec Spinoza. Hein, parce que pour Spinoza, en effet, le grand reproche qu'on fait à Spinoza, qu'il soit fondé ou infondé, c'est qu'au fond, l'individu n'est qu'un mode. Et que le seul vrai individu, en réalité, c'est la substance, c'est-à-dire la totalité. Il me semble que chez Hume, et en cela il est beaucoup plus moderne, je crois, la nature est une projection de notre esprit. Voilà. Et donc ce qui est premier, c'est vraiment l'esprit. Je crois que il y a quelque chose comme de l'idéalisme, au sens philosophique du terme, chez Hume. Le corps est exclu, c'est pas pertinent de se poser la question du corps, et la nature n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui est construit par les principes d'association entre les idées.
En même temps, Hume conserve de Spinoza l'idée que c'est anthropomorphiser la nature, ou anthropocentrer les choses, que d'adhérer, par exemple, à une représentation religieuse du monde, ou une représentation théologique du réel. En somme, la critique que fait Hume de la causalité finale, celle-là, alors là, en termes d'histoire des idées, pour le coup, on peut la dater de l'éthique de Spinoza, non ? Qu'en dites-vous ?
Oui, mais là où Hume est complètement génial, c'est qu'il explique que la manière scientifique de regarder le monde, c'est-à-dire uniquement par la causalité efficiente, est au fond tout aussi produite par la nature humaine. La causalité finale est rejetée parce qu'elle n'est pas satisfaisante. parce qu'elle ne permet pas d'expliquer correctement un certain nombre de phénomènes et parce qu'elle produit de l'aliénation en donnant le pouvoir à des prêtres, très clairement. Mais il ne dit pas « la causalité finale, c'est du délire », alors que Newton, c'est de la vérité objective. La science de Newton est recevable alors même qu'elle est une construction de l'esprit humain. C'est un relativisme. Simplement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, être relativiste, ça ne veut pas dire tout se vaut. La science de Newton, la science de la nature, est meilleure que les délires théologiques et religieux parce qu'elle satisfait mieux l'esprit et parce qu'elle permet une maîtrise plus grande de l'environnement. L'argument de la valeur d'une théorie est pragmatique chez Hume. Il y a du pragmatisme avant la lettre chez Hume, ce qui est tout à fait cohérent quand on est un empiriste radical.
Voilà, mais c'est en cela aussi qu'il n'est pas philosophe des Lumières, puisque quand il dit, en somme, Hume s'oppose par exemple à quelqu'un qui, comme Voltaire, divinisera la nature elle-même, en la faisant parler presque, et en la comparant à un artisan dont l'œuvre serait humaine. Hume est aussi celui qui permet de penser presque l'étrangeté du monde à l'homme, l'impossibilité finalement de penser le monde selon un modèle humain.
Oui, c'est la beauté des dialogues sur la religion naturelle, hein, dont la leçon réside dans une note où Hume dit qu'au fond, la différence entre le théiste et l'athée est verbale. Parce que la force du discours de Hume sur l'ordre et sur la religion, dans les dialogues sur la religion naturelle, ne consiste pas du tout à dire « les théories religieuses sont arbitraires alors que les théories scientifiques sont bonnes ». Elle ne consiste pas à dire le théiste invente un ordre qui n'existe pas, une finalité, une providence qui n'existe pas, il faut être athée. Elle consiste à dire que de toute façon, c'est le concept même d'ordre, qu'il soit final ou efficient, qui est une production de la nature humaine. Et donc, le principe de différence entre un discours recevable au titre de la science, disons, et un discours qui n'est pas recevable, n'est pas référé à sa vérité objective. Et en ce sens, oui, il est loin des Lumières, là. There's the plane, you can't miss that.
Comme le jour de la première attaque sur le sol américain.
L'Amérique a été touchée en plein cœur, frappée d'abord avec l'effondrement de ce qui symbolise le capitalisme.
C'est le plus grand attentat terroriste de l'histoire.
Frédéric Brahmi, Hume, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, que Jean-Louis Jacobin a lu tout à l'heure, Hume disait « Qui peut me dire par exemple quelles furent ses pensées, ses actions le 1er janvier 1715, le 11 mars 1719 et le 3 août 1733 ?» Alors peut-être personne, en revanche, tout le monde peut dire quelles ont été ses pensées. Toute personne peut dire quelles ont été ses pensées ou ses actions le 11 septembre 2001. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. De sorte que cet événement est peut-être humien à double titre et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. En tout cas, peut-être être interprété par Hume, il peut le permettre de le penser. D'abord, le fait que tout le monde sache où il était le 11 septembre 2001, n'est-il pas, alors là pour le coup, le garant d'une certaine forme de permanence par-delà le devenir de l'existence, comme ces événements qui sont collectivement référencés et dont chacun se souvient. Et puis deuxièmement, cette stupéfaction face à la tragédie du 11 septembre avait aussi pour effet, vraisemblablement, chez le téléspectateur confortablement assis dans son fauteuil, de provoquer une forme de solipsisme compassionnel. En somme, c'est épouvantable, c'est horrible, c'est affreux, mais en même temps, heureusement que ça ne m'arrive pas à moi. Ce que Hume permet de penser quand il dit « il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon petit doigt ». Frédéric Brahmi.
Oui, alors il y a en effet deux choses. Il y a deux choses qui sont théorisées par Hume. Pourquoi est-ce qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre ? C'est parce que l'événement est tellement énorme qu'il est vécu au présent. C'est-à-dire que Hume considère que des perceptions sont plus ou moins vives. Une perception sensorielle est très vive, une perception de l'imagination est très faible, une perception de la mémoire est entre les deux. Quand j'ai vécu quelque chose de traumatisant, comme le 11 septembre, mais ça peut être aussi là pour le coup quelque chose de personnel, c'est tellement traumatisant que c'est présentifié. Et du coup...
Constamment présentifié.
Constamment présentifié. Le 11 septembre, en effet, on se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre quand on a appris ça. Parce que l'énormité même de l'événement le fait trancher sur le fond fade et en train de mourir de ce qui se passait à ce moment-là dans nos vies. Et du coup, ça n'est pas vécu comme quelque chose de passé. Donc, je me souviens de ce que je faisais parce que les perceptions sont tellement fortes qu'elles ne sont pas vécues comme quelque chose de très éloigné dans le passé. Deuxième chose, en effet, la dimension sociale et collective. On a parlé de la mémoire, mais Hume, c'est aussi le théoricien qui dit que c'est l'orgueil qui produit l'idée du moi. Ce qui veut dire que je me sens être... Alors, quand il dit l'orgueil, il faut toujours entendre orgueil ou humilité. Je me sens être moi, par différence avec les autres, en ce que je suis plus ou moins que, plus ou moins beau, plus ou moins riche, plus ou moins savant, plus ou moins ceci ou plus ou moins
cela. Plus ou moins en danger.
Ce qui compte, c'est que ce plus ou ce moins n'a pas de valeur absolue. Être plus ou moins riche qu'un autre à Sparte, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte à Sparte, c'est d'être plus ou moins valeureux à la guerre. Et donc le soldat spartiate va prendre conscience de lui-même comme étant lui-même en tant qu'il est plus valeureux à la guerre. Mais il se saisit toujours par différence. Et une différence qui est valorisée. C'est pas une différence. C'est pas simplement l'affirmation d'une altérité. C'est l'affirmation d'un mieux ou d'un moins bien. Je me construis aussi par rapport à l'ensemble des valeurs qui ont cours dans une société donnée et sur l'échelle de laquelle je me situe. Et donc, je ne me situe pas en me disant « je suis X ». Pour être reconnu dans cette société, il faut avoir X plus 3, il faut donc que j'acquière encore 3. Comme s'il y avait une objectivité des valeurs. En vérité, je me construis comme ça. C'est-à-dire que si je suis dans une société qui valorise la richesse, si on est mieux quand on est plus riche, alors la conscience que j'aurai de moi sera construite par le niveau où je suis dans la valeur richesse.
Frédéric Brahmi, on arrive au terme de cette émission et mon regret, c'est que nous n'ayons pas eu le temps de revenir plus abondamment sur cette phrase de Hume, hein, selon laquelle il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt. Façon d'y revenir, on va terminer cette émission avec un extrait du Temps retrouvé de Madame Verdurin.
Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines, de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait, avait obtenu de Cottard une ordonnance qui lui permettait de s'en faire faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il pût se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur ! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies !» Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant la bouche pleine ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené probablement là par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction.
Sept cents millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie.
Et voilà, c'est la vie. Merci Frédéric Brahmi d'être venu nous voir. Je rappelle que vous enseignez la philo à l'Université de Franche-Comté, spécialiste du scepticisme, ça on l'avait reconnu. C'est de Hume qu'on vient de parler, de l'identité du moi. À ce sujet, hein, le texte canonique de Hume est dans le Traité de la nature humaine, livre 1, 4e partie, section 6. Jetez-vous dessus, chers auditeurs, que vous soyez philosophe ou non, c'est un texte merveilleux à lire.
Vivez au brunissoir, au sauna pour perdre.
Je rappelle l'existence de cet ouvrage collectif remarquable, Lecture de Hume, paru chez Ellipse, sous la direction de Jean-Pierre Clairaut et Philippe Saltel. Et je remercie vivement, comme tous les jours, Jean-Louis Jacopin pour sa lecture des textes.
Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie.
Agenda des spectacles, chers auditeurs, je vous signale que se joue en ce moment au théâtre de l'île Saint-Louis les 13, 20, 27 mai et 3 juin à 18h30 une pièce de Marie-Christine Descoix avec Marion Richer qui travaillait au Nouveau Chemin de la Connaissance l'an dernier, qui fait du théâtre maintenant entre autres. La pièce s'intitule Le Printemps de la Grâce, tout un programme.
900 millions d'œufs.
Suite et fin demain de la semaine consacrée au philosophe écossais David Hume, je recevrai Fabienne Brugère qui viendra nous parler des écrits esthétiques de Hume. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang, à la réalisation Christine Digère, à la musique Dutronc, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Van Red, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa, France Culture, il est 17h50, tout de suite Albert Jacquard.